Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être ici à Clermont-Ferrand pour, principalement le dimanche matin, pour partager ce moment dans la présence du Seigneur. Et je crois que ce matin, nous sommes un peu plus que deux ou trois, quand il est écrit que lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Et je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. J'espère que vous le croyez. Amen. Bon, je croyais que j'étais tout seul d'un seul coup, j'ai eu peur, non. En tout cas, merci Samuel pour la confiance, pour le moment de partage que nous allons avoir ce matin, autour de cette réflexion. Nous avons déjà entendu ce matin des bonnes choses, dans les chants, dans le texte d'introduction, dans les différents témoignages. Moi, je dois dire que ça m'a fait du bien d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Nous voyons que nous avons un Seigneur qui est merveilleux, n'est-ce pas? Un Dieu qui va parfois même au-delà de nos espérances. Est-ce que cela veut dire que la vie chrétienne, c'est facile? Je ne le crois pas. Je pourrais même dire que le fait d'être chrétien, c'est peut-être plus difficile de vivre en étant chrétien que de ne pas l'être. C'est vrai que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur ne nous a pas promis qu'il avait signé un contrat avec Interflora et qu'il allait nous livrer un bouquet de roses tous les jours. C'est vrai. Mais alors je dis que la vie chrétienne, ce n'est pas forcément facile, mais c'est possible avec la grâce de Dieu. Et nous le voyons avec des exemples qui nous sont rapportés dans les Écritures de différents personnages qui ont une vie pas toujours facile. D'ailleurs, les apôtres, il n'y en a aucun qui sont morts de leur propre mort dans un lit bien disposé. Pas du tout. Est-ce que cela veut dire que nous sommes appelés aussi à mourir de la même façon ? Je ne le crois pas non plus. Mais nous avons, je pense, au travers de ce que j'ai entendu déjà ce matin, dans notre marche avec le Seigneur, des difficultés, des problèmes, des soucis. Et est-ce que cela doit, comment dirais-je, influencer sur notre foi ? Est-ce que cela doit venir m'écraser à tel point d'être à d'abandonner la foi? Bien sûr que non. Nous ne devons pas nous laisser, dominer par les soucis, les problèmes. Ayant la foi, c'est à moi de dominer les problèmes. Et nous voyons, nous allons voir un exemple ce matin avec un personnage que j'aime assez bien, quoiqu'il peut être controversé parfois. C'est Paul. Je voudrais vous parler de Paul. Je voudrais vous parler de l'espérance de Paul. Parce que cet homme a beaucoup de choses à nous apprendre. L'apôtre Paul, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à suivre, pas toujours facile à comprendre d'ailleurs. Et les épîtres aux Colossiens ou aux Éphésiens, qui sont assez courtes d'ailleurs, il existe là certaines difficultés. Mais si nous prenons un peu de temps pour méditer, étudier ces textes, il y a une chose qui jaillit au détour des pages de Paul, c'est la réalité de l'espérance. On trouve des chants, des hymnes, des références à l'espérance de Paul, et Paul lui-même vit dans sa foi profonde en Jésus-Christ. Le mot espérance est un peu faible dans les textes de Paul. Pourquoi ? Parce que chez Paul, l'espérance est une certitude. Et quand l'apôtre parle de son espérance en l'avenir, il parle de ses certitudes, de ses convictions quant à l'au-delà qui concerne la vie éternelle. Permettez-moi de vous dire que votre avenir, mon avenir, n'est pas ici-bas. Je suis désolé peut-être de faire écrouler peut-être de vos projets pour les jeunes, mais il faut que vous ayez des projets. Mais votre avenir n'est pas sur cette terre. En tant que chrétien, notre avenir est ailleurs. Et quand on pense à cela, quand je pense à cela, quand je suis dans les difficultés, alors les difficultés prennent une autre couleur. Au lieu qu'elles soient en noir et blanc, elles sont en couleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous essayons de saisir ce que Paul dit, il nous faut relire plusieurs passages de ses lettres et ne pas oublier de les lire dans l'ordre chronologique de leur rédaction. Parce que d'année en année et d'épître en épître, Paul est de plus en plus rempli d'espérance et de certitude, jusqu'à devenir chez lui une espèce de sérénité, de calme, de tranquillité absolue, même en pleine difficulté. Et lorsque nous lisons l'Épître aux Philippiens, nous savons que Paul est à la fin de la vie, de sa vie. Il est habité par une paix intérieure qui fait qu'il n'a plus peur de la vie et de ses problèmes. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est en prison et il n'a pas peur de la mort qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. Quel que soit le résultat de sa situation, il est serein, calme et tranquille. Et cette paix, il ne faudrait pas passer dessus trop vite parce qu'elle est une véritable bénédiction. Et cette bénédiction, qui est aussi la grâce de Dieu, est le fruit, le résultat d'une consécration sincère, profonde et honnête. L'apôtre Paul est certainement un de ces premiers chrétiens qui a le plus souffert dans sa vie. Et il était exactement en train de faire la volonté de Dieu. Et malgré cela, il a eu des difficultés, beaucoup de problèmes. Tout au long de son ministère, il a connu toutes les blessures qu'un homme peut connaître. Blessures dans sa conscience, ça veut dire, avant sa conversion, il a été un meurtrier, un assassin. Il persécutait les chrétiens, il détruisait les églises. Blessures dans son corps, il a été frappé, lapidé, laissé pour mort, sans oublier sa maladie, cette fameuse écharde dans la chair que Dieu n'a pas guérie. Combien de fois il a dit « Seigneur, enlève-moi cette écharde ». Et au bout d'un moment, Dieu lui en a eu marre. Il a dit, écoute Paul, maintenant, ça suffit. Ma grâce te suffit. Alors va. C'est vrai que parfois, comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu. Et il semble que Dieu nous a même oubliés. Mais peut-être parce que nous sommes trop polarisés sur notre problème, alors on n'entend pas Dieu nous parler. Et c'est vrai que Dieu a mille et une manières de nous donner une réponse. Et c'est là qu'il faut être attentif. Blessure aussi dans son moral. Il a souvent été incompris, et même encore aujourd'hui peut-être. Mais surtout, il a été attaqué par d'autres chrétiens. Et il a parfois été abandonné par ses anciens amis qui ont travaillé avec lui dans la mission. Et en lisant certains passages, on découvre quelques détails sur sa condition. Par exemple, en 1 Corinthiens 4, verset 9, il dit ceci, « Dieu a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, comme des condamnés à mort, nous donnant spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Et puis un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 4, verset 7 à 10, « Nous portons ce trésor en nous comme des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. » Et puis un peu plus loin, Paul réagit face à certains qui essayent de se présenter un peu comme meilleur, comme supérieur à lui. Et là, Paul, il semble qu'il est obligé un peu de se justifier. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Et nous allons prendre le temps de lire ce passage. 2 Corinthiens 11, 23 à 29. « Je parle en homme qui extravague. » Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Voilà un peu une courte description des conditions de Paul. Je pense que parmi nous tous, ici ce matin, nous n'avons pas encore vécu ce genre de choses. Mais qui sait? La vie de Paul n'a pas été un long fleuve tranquille, comme l'on dit. Et aujourd'hui, la vie de missionnaire s'est peut-être améliorée, mais il y a toujours des difficultés. Pas plus tard qu'hier soir, j'entendais aux infos qu'il y avait eu des personnes, des missionnaires en Afghanistan qui ont été assassinés. Comme quoi, aujourd'hui encore, on peut mourir pour la cause de l'Évangile. Je n'en sais pas plus, je n'en dirai pas plus, mais je sais simplement que ces personnes donnaient des soins aux habitants. Paul a vécu des tensions, des menaces, des coups, des trahisons, de la tristesse, des angoisses. Et malgré tout cela, il y a aussi l'espérance et les certitudes. Paul voit l'avenir, son avenir avec tranquillité et sérénité. Je dirais que Paul est un optimiste acharné. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui une lumière qui ne le quitte jamais depuis le chemin de Damas, depuis une conversion. Pour lui, Jésus efface toutes les peurs, toutes les incertitudes, toutes ces choses qui nous feraient entrer, tomber dans le désespoir, la dépression, voire même jusqu'à douter de Dieu. Et l'expérience de conversion de Paul n'a pas été un moment émotionnel passager. Ça n'a pas été un feu de paille, mais ça a été une découverte. Ça a été, je dirais même plus, une rencontre avec Jésus qu'il persécutait. Et il n'a plus jamais été le même. Cette rencontre a rempli définitivement sa vie, ses attentes, ses manques, ses espérances. Paul a vu Jésus resplendissant de gloire et cette image s'est imprimée pour ne jamais s'effacer. Et alors je peux comprendre que quand on fait une telle expérience, une telle rencontre, nous sommes bien sûr appelés à traverser des difficultés, mais cette expérience ne peut pas nous quitter. En plus de cette découverte qui illuminera toute sa vie, il y a un sentiment puissant de reconnaissance à l'égard de Jésus. Paul, lui qui persécutait l'église de Jésus-Christ, Jésus lui fait non seulement la grâce, lui fait grâce, le pardonne, mais il lui fait l'honneur aussi de le servir. Paul sait qu'il n'y avait pas de crime plus grand que de combattre Dieu. Et Paul a participé, par exemple, à la lapidation d'Étienne. Il était là, et c'est peut-être même lui qui a donné les ordres. Et un peu plus tard, il est gracié par le Seigneur lui-même. Toute sa vie, Paul débordera de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Et lorsqu'il parlera de remise de dette, il saura de quoi il parle. La dimension de la grâce et du pardon. Frères et sœurs, nous savons bien prononcer ces mots. Mais savons-nous en vivre? C'est autre chose. Savoir que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est une chose. Mais savoir en vivre chaque jour dans notre vie, dans notre marche, dans notre foi, c'est aussi encore autre chose. Ce sont des dimensions que Paul voudra alors partager en permanence parce que c'est son témoignage, c'est son expérience, c'est son vécu. Et derrière ces expériences vécues, Paul voit aussi autre chose. Il voit l'amour du Christ, un amour qui le dépasse, un amour qu'il imaginait comme impossible jusque-là. Et malgré sa connaissance de l'Ancien Testament, il connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts, je vous assure. C'était un maître en la matière. Et les prophètes, tous les prophètes de l'Ancien Testament, n'avaient aucun secret pour lui. Il n'avait jamais imaginé un amour pareil. Et il parlera souvent de cet amour que Dieu fait éclater, que Dieu révèle en Jésus-Christ. En Romains 5, verset 6, il dit ceci. « En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Et puis ce texte de Romains 8, 35 qui a été lu tout à l'heure, « Qui peut nous séparer de l'amour de Christ ? Qui ? Est-ce que c'est la détresse ? Est-ce qu'elle le peut ? Ou bien est-ce que c'est l'angoisse ? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort, etc. etc. Est-ce que c'est toutes ces choses qui peuvent nous séparer de cet amour ? Romains 8, 38, un peu plus loin, et il donne la réponse, « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le Fils de Dieu incarné est aussi un serviteur venu jusqu'à nous, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la misérabilité de la condition humaine. Paul ne pouvait pas l'imaginer avant d'y être confronté, avant d'avoir cette rencontre personnelle avec Jésus. Et cette merveilleuse surprise, eh bien, il en parle souvent. Et dans l'Épître aux Philippiens, il dit encore ceci, au chapitre 2, versets 6 à 8, « Il, en parlant de Jésus, possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Pour Paul, le don de Jésus, c'est la preuve de la sagesse de Jésus, c'est-à-dire la capacité à saisir la science de Dieu, le discernement de la volonté divine. Et Jésus a parfaitement accompli le plan de salut de Dieu. Il n'y a rien à rajouter de plus pour chacun de nous. Paul, chaque jour de sa vie de chrétien, a développé, approfondi sa relation avec Jésus. Paul connaissait Jésus de mieux en mieux et en l'expliquant aux autres, il apprenait encore davantage. Dans l'Église, dans l'Épître aux Galates par exemple, Paul rend gloire à Jésus de ce qu'il rend libre les âmes qui sont liées par toutes sortes de liens. Dans l'Épître aux Romains, il rappelle que Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Jésus est le sauveur, le rédempteur des hommes, des femmes et de tous sans exception. Mais voilà aussi que la nature tout entière soupire après lui. Dans les dernières épîtres, comme celle aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, il exalte le Seigneur Jésus, le centre de l'univers vers lequel tout se dirige. Jésus est le point milieu autour duquel tout tourne. la création, le monde visible, le monde invisible, il est l'unique et l'universel. Voilà de quoi est nourrie la foi en Jésus. Voilà ce que Paul partage. Et avec tout cela, comment ne pas être rempli d'espérance pour l'avenir? Comment? Et qu'espère-t-il? Rien de plus, mais rien de moins que d'être avec le Christ. Bon, je n'ai pas le temps ce matin, mais j'ai beaucoup d'imagination parfois quand je parle de ces choses. Et je m'imagine très bien comment ça sera là-haut. Paul souhaite, espère, et il a la certitude de vivre éternellement avec le Christ. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Oh, je sais aujourd'hui. Oh, moi, après la mort, je suis dans un trou, puis terminé. Non? Je dirais même que c'est là que tout commence. Oui, c'est pas la fin, la tombe. La vie continue sous une autre forme, mes amis. Et c'est là qu'il faut se préparer, déjà maintenant, déjà ici-bas, il faut se préparer à l'avenir, à l'éternité. Alors il faut savoir qu'il y a deux côtés de cette éternité, il faut savoir de quel côté on veut aller. C'est une réalité, on peut la nier, mais c'est une réalité, ça n'empêche pas que la réalité allait se caler. Donc Paul attend qu'une chose de l'avenir, être enfin réuni, être en présence du Seigneur Jésus, celui qui est devenu sa vie, à tel point qu'il dira « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et en lisant Paul, nous avons le sentiment qu'il a eu la vision de son avenir. Aujourd'hui, beaucoup de monde veulent connaître leur avenir. Alors, ils sont prêts à se lancer dans n'importe quelle science ésotérique pour obtenir je ne sais quelle promesse. Mais Paul a eu la vision de son avenir. Là, il sait que c'est là la récompense des croyants qui demeurent fidèles. Le mot récompense ici peut laisser croire que toute la vie est faite et organisée en vue d'une récompense. Mais nous devons le savoir, Paul utilise ce mot récompense pour dire qu'il est au bénéfice de la grâce de Dieu, qu'il n'a rien mérité, mais que finalement tout est grâce. Pour nous, c'est la même chose aussi. Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré le Christ. Le Christ répondait à toutes ses aspirations. Il trouvait en lui tout ce qui pouvait faire vivre son âme. Pour Paul, vivre sans le Christ, ce n'était pas vivre. Et voilà pourquoi il ne peut pas envisager son avenir sans une relation, une communion profonde avec son Seigneur. Et là, nous devons nous demander, ce matin, qui est Jésus pour nous, en fait? Nous avons sans doute peut-être à revoir notre foi, notre compréhension de la parole lorsque je la lis, lorsque je la médite. Nous avons peut-être à revoir aussi notre engagement. Nous avons certainement à vérifier, peut-être actualiser, remettre à jour notre connaissance à l'égard de celui qui nous a sauvés. Nous avons aussi à revoir notre compréhension, comme je le disais tout à l'heure, de la grâce, pour ne pas nous habituer au pardon de Dieu. Le pardon de Dieu doit toujours nous rappeler que nous sommes au bénéfice d'un amour total qui efface, qui oublie nos péchés, nos manquements. Oui, c'est vrai. Certains pensent, bien, puisque Dieu pardonne, alors bon, eh bien, dans ce cas, je fais ce qui me plaît, ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, même si cela déplaît à Dieu, de toute façon, il me pardonne. Je crois que on ne se moque pas de Dieu. Et si notre connaissance de Jésus grandit, notre espérance, nos certitudes seront fortes. L'avenir que propose la politique n'est pas rose. En fait, je crois même pouvoir dire que ce ne sont que des mensonges, excusez-moi. Mais ce que le Seigneur nous promet comme avenir doit nous enthousiasmer. et nous empêcher de tomber dans le désespoir. Bon, si un jour vous avez un moment où vous avez le blues, bah, ma foi, c'est pas, ne dites pas, bah, je suis tombé dans le péché. Dans la parole de Dieu, il y en a un qui a passé par un moment de dépression très forte. Et quand je lis cette histoire, je ne vois jamais Dieu l'accabler de reproches. Au contraire, Dieu accourt pour venir le réconforter, le remettre sur pied. Parfois, c'est nous qui sommes durs avec nous-mêmes. En fait, nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Ça ne vous arrive pas? Moi, parfois, ça m'arrive. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais c'est avec moi-même. J'ai du mal à me pardonner, à me dire, mais comment tu as pu faire une telle bêtise? Comment tu as pu faire ceci? C'est vrai. Mais si on accepte le pardon de Dieu, Dieu l'a déjà effacé. Alors, je le répète, si notre connaissance de Jésus grandit, notre espérance, nos certitudes seront fortes. Et l'avenir que Dieu, lui, nous propose, nous le savons, sera, comme l'apôtre Paul, dans les difficultés, il sera à nos côtés. Il ne sera pas devant ni derrière, mais il sera à notre côté pour nous soutenir. Étant certains donc du plan merveilleux de Dieu, nous supporterons plus facilement les difficultés, la souffrance, les blessures, les déceptions, les angoisses, les maladies et les deuils. Oui, nous sommes tous confrontés à ces choses. Si nous sommes remplis de paix, de calme, de sérénité, nous pourrons étonner ceux qui nous entourent. Nous serons lumière du monde. Nous serons le sel de la terre. Nous serons comme Paul, des semeurs d'espérance, parce que débordant nous-mêmes d'espérance, alors les autres voudront avoir ce que nous avons. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés dans votre marche avec le Seigneur. Il veut le meilleur. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous serez exempt de difficultés. Pas du tout. Mais le Seigneur sera avec vous. Soyez bénis dans son nom.